Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, ben nous allons, cette semaine, c'est le mois d'août, c'est le mois des vacances, évidemment. Alors j'ai un livre sous les yeux, un livre assez important d'ailleurs, qui s'intitule « Sublime Périgord ». Sans que le Périgord soit sublime, personne n'en doute, et c'est la fabrique d'un territoire d'exception. Alors c'est un livre qui est édité par Les Ardents, éditeur en 2021, donc c'est un format un peu plus grand que d'habitude et qui a 240 pages. Alors les auteurs, il y a Philippe Grandcoin et Hélène Lafaille Fouetti ou Fouissi, comme la Boissy, je ne sais pas comment on prononce exactement. Alors, Sublime Périgord, la fabrique d'un territoire d'exception. Alors, sur les premières pages, il y a en gros caractère, il y a de ça. Si sur cette bonne, nous étions quelques-uns à deviser des vacances et chacun faisait ses projets, l'un voulait aller à Royan, l'autre à Arcachon et un troisième à Biarritz. Et vous, me dit-on, moi je veux aller dans un pays inconnu de ses propres habitants, je veux aller en Périgord. Là-dessus, tous s'esclaffèrent à faire en se gaussant de moi, aller en Périgord, mais vous y êtes, qu'à plaisanterie. Vous voulez rire. Alors, ce texte est extrait de Eugène Leroy, des carnets de notes d'une excursion de 15 jours en Périgord, et c'est édité, évidemment, par l'imprimerie Jouclin en 1901. Alors, il y a de très belles illustrations, dans certaines anciennes, et il y a aussi des bois gravés de Maurice Albe. Ouais, j'ai les choses sous les yeux. Le château de Beynac. Alors, il y a un avant-propos. Alors bien sûr, cet avant-propos, ben, je vais vous le donner. Les auteurs ont eu l'idée de ce livre en constatant, non sans surprise, que vers 1900, le département de la Dordogne était largement ignoré des guides touristiques. Ni son patrimoine, ni sa cuisine, ni ses paysages n'étaient alors valorisés au-delà des cercles locaux, à quelques exceptions près. Le renversement de situation opéré depuis les a amenés à s'interroger sur une éventuelle invention du Périgord. Au cours du XXe siècle, ben oui, c'est quand même assez récent, cette expression aurait pu servir de titre à l'ouvrage tant elle dit beaucoup de choses en peu de mots. Inventer, c'est bien évidemment créer, et effectivement la littérature, la peinture, le dessin, la gravure, la photographie, la télévision, les textes savants, les ouvrages de vulgarisation ont forgé tout un ensemble de représentations de ce territoire, de ses habitants et de ses nombreuses richesses. Oui, il y en a beaucoup. Alors, sans inventer, c'est aussi dévoiler au grand jour ce qui était juste là caché aux yeux extérieurs, mais également invisible pour ceux qui vivaient au quotidien parmi tant de trésors, et comme ce qui est caché est protégé des pillages, des injures du temps ou de la modernité destructrice, le Périgord est ainsi apparu comme un territoire par essence préservé, d'où aussi le choix de l'emploi du nom de l'ancienne province et non celui du département créé par les législateurs révolutionnaires. La Dordogne, dénomination administrative forgée à partir d'un élément hydrographique, n'a pas réussi à s'imposer lorsqu'il s'agit de célébrer le patrimoine local sous toutes ses formes. Oui, de toute façon, on a pris la Dordogne, la rivière la Dordogne, pour baptiser le département. Non. Dans l'imaginaire collectif, elle est surtout une rivière chargée d'histoire, courant des contreforts des hauts plateaux du Massif central jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Il est donc nécessaire pour suivre le processus de fabrique de ce territoire singulier de croiser le regard de la géographie et de l'historien. Dans le temps et l'espace entremêlent ici, les hommes se sont appuyés sur les dons de la nature et les legs de leurs prédécesseurs pour préserver, mettre en valeur et promouvoir un Périgord sublimé. Depuis les premières études sur le Périgord antique jusqu'aux équipements touristiques majeurs du XXIe siècle, en passant par la découverte de multiples sites préhistoriques ou encore l'installation de Britanniques depuis une quarantaine d'années, c'est tout l'ensemble de phénomènes que le livre visite ici, en s'appuyant sur une documentation originale et multiples travaux qu'a inspiré le Périgord. C'est aussi un voyage, une balade par le texte et par l'image, et la découverte de sites majeurs du département, mais aussi de ses contrées moins célébrées, de ses rivières de ces villages, de ces bonnes tables et de ces places du marché. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, le paradis semble être devenu le Périgord, et lui pavé de centaines d'inventions évoquées dans l'ouvrage, faisant de ce territoire d'exception une destination de rêve pour y séjourner et pour y vivre. Voilà. Alors ça, c'était l'avant-propos de ce livre sublime, Périgord. Alors, il y a deux auteurs, je vais quand même, on ne va pas les passer sous silence. Alors, il y a les auteurs, alors c'est Philippe Grandcoin et Hélène Lafaille Fouetti ou Fouessi, je ne sais pas si on prononce comme la Boétie. Alors, Étienne Lafaille Fouetti et Philippe Grandcoin ont en commun des origines périgourdines, curieux du monde passé et présent qui les entoure. Ils en ont fait à la fois métier et objet d'étude. Alors, géographe, Hélène Lafaille Fouetti a mené de nombreuses recherches sur les Britanniques en Périgord et sur le renouveau des campagnes françaises. Aujourd'hui, elle s'intéresse également à la géographie culturelle ainsi qu'à la géopolitique. Leur historien, spécialiste du 19e siècle, Philippe Grandcoin, s'est longuement intéressé aux sociétés rurales. Ses travaux actuels portent essentiellement sur l'histoire du patrimoine. Et enseignant tous les deux en classe préparatoire des grandes écoles au lycée Gay-Lussac à Limoges, ils ont mis en commun leurs connaissances, leurs méthodes, leur analyse pour offrir au public ce regard croisé des réalités d'un territoire dont le nom est une invitation au voyage, le Périgord. Voilà, alors, il y a bien sûr le synopsis du livre, je vous en donner la lecture. Partir à la découverte d'une des destinations préférées des touristes français et étrangers, tout en expliquant les origines et les étapes de son succès, telle est l'ambition de Sublime Périgord. Croisant le regard d'un géographe et d'un historien, ce livre invite à revivre par le texte et par l'image cette lente alchimie qui, depuis près de deux siècles, a fait découvrir et changer ce territoire. Alors Hélène Lafaille Fouetti et Philippe Grandcoin suivent ainsi le 19e siècle à nos jours, la mutation du regard porté sur les paysages et monuments. Ils revisitent aussi bien la littérature et le cinéma que la peinture ou la photographie, analyse ce que le Périgord doit à sa gastronomie, à ses sites préhistoriques, à ses vestiges antiques ou médiévaux, à ses villages et à ses saveurs. Et ainsi se dessine aussi de Montaigne à l'abbé Breuil, en passant par les Britanniques et les chefs étoilés, l'importance de ces ambassadeurs anonymes ou célèbres qui ont contribué à la fabrique de ces territoires d'exception. De Lascaux à Brantôme, de Sarlat à Bompazier, de la Double au Bergeracois, ils dressent une carte tout en nuances et en richesse, où se découvre un coin d'une halle, un détour d'un sentier, ou au débouché d'une ruelle, une région qui a su allier préservation du patrimoine et invention d'un art de vivre. Alors comme il y a une bonne dizaine de sujets, on ne va pas bien sûr tous les prendre les uns après les autres, mais il y a des endroits peut-être moins connus, comme par exemple la Double. Alors la Double, un coin de Sologne en Périgord, c'est le titre de ce chapitre. Alors, une dizaine d'années avant que Jeanne Leroy n'entame la rédaction d'un ami de l'amant, le voyageur anglais Edward Harrison Barker traverse en 1893 le désert de la Double. Il note à son propos, c'est encore un des endroits les plus sauvages et abandonnés de France. Mais comme la Camargue, il a été transformé par l'assainissement, la culture des sols. Ces dernières années, effectivement, cette contrée d'environ 50 000 habitants située au sud de Ribérac, bordé à l'ouest par la Drône et au sud par l'Isle, fut pendant très longtemps la plus pauvre et la plus inhospitalière et la plus mortifère du département. Dans les années 1840, il n'était pas rare que le taux de mortalité y dépasse les 40 pour 1000. À cette époque, la forêt initiale surexploitée laissait la place à des landes parsemées d'étangs et de marécages et l'économie se réduit à l'élevage de moutons par un peuple ave de charbonniers et de maraudeurs. Alors c'est un géographe, un régime reclus, qui est décédé en 1916. Conscient du problème, les autorités développent au cours des décennies suivantes une politique de drainage, d'assainissement et de plantation de pins maritimes. sur le modèle des Landes et de la Sologne. Les routes sont ouvertes et en 1868, une communauté de moines trappistes vient s'installer à Chauriac, au cœur de la Double. Les membres de cet ordre sont en effet montré tout leur savoir-faire en matière d'aménagement agricole depuis le Moyen-Âge. L'abbaye attire très vite les visiteurs, aussi bien Édouard H. Barker qui passe une nuit qu'Ardouin Dumazet. Ce dernier, fasciné par la modernité, consacre de longues pages aux entreprises de bonification des terres menées par les moines. Alors l'anticlérical, Eugène Leroy, évidemment, préférera pour son roman mettre en scène un médecin, le docteur Charbonnière, luttant jusqu'à y perdre la vie contre les marais et les préjugés des paysans. Aujourd'hui, la Double est au contraire appréciée pour sa faune et sa flore sauvage. Des zones humides et ses réserves naturelles est aussi bien le paradis des chasseurs que des ornithologues. Alors, si vous passez pas très loin, vous pouvez aller visiter l'abbaye qui est quand même très jolie, puis on peut emporter quand même quelques souvenirs. Alors, il y a bien sûr le Périgord à l'écran. Alors, c'est un texte peut-être un peu long. Voilà, alors après la gravure et la photographie, c'est au tour des réalisateurs de cinéma et de télévision de puiser leur inspiration dans les paysages et les villes du département. Si le premier film tourné à Sarlat fut Le Capitaine Fracasse, en 1928, c'est surtout à partir des années 1960 que le cinéma va devenir un support essentiel à la construction de l'image et la représentation du Périgord. Selon les époques et les attentes des spectateurs ou téléspectateurs, les films vont confronter jusqu'à ce que le grand public projette sur le département. Il est ainsi pas surprenant qu'au moment où le patrimoine bâti est redécouvert dans les années 1960, les films tournés mettent en valeur l'époque pré-révolutionnaire dans un écrin de château et de belles bâtisses. Les héros de films de KPDP trouvent ainsi moult bâtisses à escalader et autant de cours pour livrer bataille. Alors, du Capitan, en 1960, avec Bourville et Jean Marais, à Colinette Trousse Chemise, 1974, avec Brigitte Bardot, le département est avant tout un décor qui permet, comme dans Les Misérables en 1982 ou dans Les Visiteurs 2 en 1998, tourné à Beynac, de voyager plusieurs siècles en arrière. Alors, Les Duellistes en 1977 ou Plenty en 1985, mis en scène par des réalisateurs étrangers, montrent que le Périgord, et particulièrement Sarlat, est ainsi inscrit dans une mémoire internationale, collective et artistique en tant qu'espace préservé et sans doute éloigné de la modernité. Leur évitant la construction de coûteux décors, les cinéastes y trouvent des conditions favorables à leur tournage, aussi bien d'un point de vue esthétique qu'économique. En effet, le conseil départemental, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine mène depuis plusieurs décennies une politique très active afin d'attirer de nombreux tournages et la volonté de préserver le patrimoine offre une toile de fond idéaliste. Alors Ridley Scott, le réalisateur des Duellistes, n'a d'ailleurs pas hésité à revenir tourner à Sarlat en 2020 avec Matt Damon et Ben Affleck, la fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau. Les téléfilms Cartouche 2009, Victor Hugo 2018, ou la série mettant en scène les aventures de Nicolas Le Floch, ont ainsi renoué depuis une trentaine d'années avec cette longue tradition et montrent que l'intérêt pour le Périgord, terre d'histoire et de patrimoine, reste très important. Alors, à quel type de la France provinciale est aussi très présent à travers le cinéma, Le Boucher de Colchabrol, en 1970, rencontre un important succès en montrant une France intemporelle dont le calme est bouleversé par une série de meurtres. La Dordogne n'est pas seulement un décor, elle devient un acteur à part entière du film. Elle y est décrite comme un lieu calme et plaisir dans lequel va pourtant se nouer un drame inattendu, comme dans Les Bois Noirs en 1989 avec Béatrice Dalle, cette image du calme provincial d'une région protégée de toute violence est aussi source d'inspiration pour des récits flirtant avec le fantastique. Même si elle n'a pas été tournée dans le département, adaptation du roman de Robert Merle, Malville, joue sur ce même registre. L'écrivain est en effet inspiré du château de Comac pour y décrire le quotidien d'une petite communauté villageoise sans histoire qui se trouve violemment pojotée dans un hiver post-nucléaire. Voilà. Alors donc, ben je vais arrêter là ces lectures. Et bien, enfin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, ben, je crois qu'il va faire beau. Voilà, bonnes vacances.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.